En le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères, mes bien chers amis. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce chapitre 13 de l'Évangile selon saint Matthieu, nous parle en parabole, comme il le faisait souvent avec ses disciples. Il nous donne deux exemples qui sont parallèles, similaires. Le premier exemple qu'il nous donne, c'est l'exemple de la graine de moutarde. La graine de moutarde qui est la plus petite des plantes fourragères et lorsqu'on la place en terre, elle se lève. Elle lève, elle finit par donner un arbre, dit l'Évangile, et entre ses branches, les oiseaux du ciel vont pouvoir venir nicher, se reposer. Et ensuite, il réexplique la parabole d'une autre façon, avec un autre exemple. Il parle de la femme qui mêle à la farine une mesure de levain pour faire lever la pâte. La pâte va pouvoir lever et donner du bon pain. Il est donc important d'essayer de comprendre, comme l'a fait l'Église pendant 20 siècles, de comprendre quelle est l'interprétation que donne la Sainte Église justement à ce genre de parabole. Bien nous garder, surtout dans ce domaine, d'avoir une interprétation personnelle. Vous savez que dans le serment antimoderniste, et même dans la profession de foi, qui vient du Concile Vatican I, du Concile de Trente, au XVIe siècle, il est bien précisé que le catholique se doit d'interpréter l'Écriture sainte dans le sens dans lequel l'Église l'a interprétée depuis le début. Donc un des signes du modernisme, c'est vouloir avoir une interprétation personnelle de l'Écriture sainte. Il faut donc savoir, mes bien chers frères, surtout dans l'interprétation de l'Évangile, se cacher littéralement, se cacher sous l'interprétation officielle. Comment l'Église a-t-elle interprété ces textes-là pendant 20 siècles? Vous savez que ceux qui ont la clé de l'interprétation de l'Écriture sainte sont les pères de l'Église, surtout saint Jérôme. En matière théologique, Le plus grand des docteurs, c'est saint Thomas d'Aquin, mais en matière d'exégèse, c'est de loin saint Jérôme. Alors, il faut aller chercher justement dans ce qu'on dit saint Jérôme et tous les pères. Plusieurs façons de faire cela. C'est intéressant, même pour vous, laïcs, d'essayer d'apprendre à connaître l'interprétation de l'Écriture sainte. Une des meilleures façons de connaître l'interprétation de l'Écriture sainte, c'est d'aller chercher dans un livre magnifique qui s'appelle « La chaîne d'or » de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, le plus grand théologien de l'Église catholique, qui était lui-même un grand exégète, avait lu toute la patrologie, c'est-à-dire tous les pères grecs et tous les pères latins. Et comme il avait reçu du bon Dieu un don extraordinaire de retenir tout ce qu'il lisait, il connaissait par cœur toute la patrologie grecque, toute la patrologie latine, plus de 100 volumes. Et à partir de ça, de mémoire, donc il a pris chaque verset des quatre évangiles, et pour chaque verset de l'évangile, il a recopié de mémoire, sans vérifier, il a copié de mémoire tout ce qu'avait dit les pères de l'Église sur chacun de ces versets. Il a fait quelques fautes, mais très peu. Et donc, cette magnifique œuvre, un petit peu sèche, parce que saint Thomas se cache encore une fois littéralement derrière les pères de l'Église, il n'y a pas un mot de saint Thomas dans ce livre. C'est saint Thomas qui a pris les références et qui les a mises bien placé pour que chaque verset des quatre évangiles puisse être expliqué et lu avec la lumière donnée par les pères de l'Église. Donc je vous conseille beaucoup d'étudier ce qu'on appelle la chaîne d'or, la Catena Aurea de saint Thomas d'Aquin. Monsieur Saguillot l'a publié aux éditions Saint-Rémy. Une autre chose que vous pouvez faire pour bien connaître l'Écriture sainte et l'interprétation de l'Église de l'Écriture sainte, c'est d'étudier Don de Montléon. Don de Montléon est certainement un des plus grands auteurs qui donne encore une fois en français l'Écriture sainte, le sens caché de l'Écriture sainte. Don de Montléon était un bénédictin qui malheureusement est mort trop tôt et n'a pas eu le temps de tout finir. Il a fait une bonne partie de l'Écriture sainte de l'Ancien Testament. Donc ses livres sont également publiés aux éditions Saint-Rémy et je vous les conseille beaucoup. Et la troisième œuvre qui malheureusement à ma connaissance n'existe pas en français, une partie a été traduite en anglais, elle existe en latin, c'est ce qu'on appelle Cornelius à Lapide. Cornelius à Lapide était un bénédictin du XVIe siècle, je crois, qui a fait un travail énorme, un peu le même travail de saint Thomas d'Aquin, mais cette fois-ci sur l'ensemble de la Bible, tout l'Ancien Testament, tout le Nouveau Testament. Et ce que je fais pour préparer mes sermons, c'est tout simplement reprendre un cours que j'ai préparé, où j'ai repris chaque verset des quatre évangiles, et je suis allé pêcher justement dans Don de Montléon, dans saint Thomas d'Aquin, et dans Cornelius à Lapidé, toute la sève, la moelle, si vous voulez, de l'enseignement de l'Écriture sainte. Et vous verrez, je vais vous donner un exemple avec ces deux paraboles, comment, dès qu'on lit l'Écriture sainte avec le commentaire des pères, on ouvre une page totalement différente. Les modernistes peuvent se repérer, un des signes par lesquels vous pouvez repérer le moderniste, un prêtre ou un laïc imbibé de modernisme va se repérer immédiatement par sa mauvaise interprétation de l'Écriture sainte. Entre autres, il va refuser catégoriquement ce que l'Église appelle le sens mystique, le sens caché de la Bible. Derrière le sens écrit, il y a un autre sens qui est caché, soit le sens allégorique, soit le sens tropologique, soit le sens anagogique. C'est-à-dire, soit une partie de l'Écriture sainte de l'Ancien Testament va représenter ce qui va se passer dans le Nouveau Testament, ce qu'on appelle le sens allégorique, soit notre Seigneur Jésus-Christ, par une parabole, va nous expliquer ce que nous devons appliquer à nous-mêmes et faire par nous-mêmes, c'est le sens moral ou tropologique, soit par une parabole ou un texte de l'Écriture sainte, le bon Dieu va nous expliquer ce qui se passera à la fin des temps. On appelle le sens anagogique. Reprenons un petit peu, si vous voulez, donc ces deux textes qui sont encore une fois parallèles. La graine de moutarde qui est plantée dans le jardin par le jardinier et qui va devenir un arbre avec de nombreuses branches sur lesquelles, dit l'Évangile, les oiseaux du ciel vont pouvoir venir nicher et se reposer. On dit que la graine meurt avant de ressusciter. C'est-à-dire que la graine doit en quelque sorte mourir pendant l'hiver dans la terre pour pouvoir germer au printemps. Eh bien, donc, cette graine qui meurt et qui ressuscite est évidemment le symbole de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Symbole de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ le vendredi saint et de sa résurrection glorieuse le jour de Pâques. Et dans les deux cas, à savoir le cas de la graine de moutarde et le cas du levain, c'est la même représentation. C'est-à-dire, cela explique comment notre Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce, va faire fructifier l'Église. Donc la graine de moutarde qui se développe représente le développement de l'Église. Le développement de l'Église et surtout le développement de la grâce et de la vertu de foi, d'espérance et de charité à l'intérieur des âmes. Donc ces vertus vont progresser, vont s'ouvrir, vont donner des belles branches. C'est aussi le symbole, bien sûr, de l'Église. L'Église qui commence tout petit, notre Seigneur Jésus-Christ a commencé son Église avec 12 apôtres, n'oubliez pas, 72 disciples, c'est tout. Et la plupart vont le trahir le vendredi saint. Eh bien, avec cette Église, si vous voulez, le bon Dieu va, en quelque sorte, utiliser l'Église comme un ferment pour le monde. Donc l'Église va se développer et va donner des branches magnifiques sur lesquelles les oiseaux du ciel vont pouvoir venir se poser. Donc l'arbre, c'est l'arbre de l'Église, l'arbre du Christ. Les branches sont les dogmes, les différents dogmes de la foi catholique. Et la phrase qui dit que les oiseaux vont venir se reposer à l'ombre de ce feuillage sur les branches de cet arbre magnifique, représente les âmes qui font oraison. Très beau l'interprétation des pères. Les âmes qui font oraison, c'est-à-dire que pour arriver à garder l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ dans un monde de plus en plus pourri, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller voler et aller se réfugier, planter son nid pour construire son nid dans les branches de l'arbre. Et là, on va se reposer. C'est le repos spirituel de l'âme, c'est-à-dire l'esprit d'oraison qui donne la paix, la joie, le calme que notre Seigneur Jésus-Christ seul peut donner. Et donc, celui qui a l'esprit d'oraison, celui qui sait faire oraison, justement, saura aller se protéger dans l'arbre afin de garder sa paix intérieure. Celui, au contraire, qui ne sait pas faire oraison, va perdre la paix intérieure très facilement avec le bruit du monde. Alors pourquoi les exercices saint-Ignace sont tellement importants, d'ailleurs? Parce que les exercices de Saint-Ignace sont une école de raison. Pendant les 5 jours de retraite, on apprend justement aux retraitants à faire oraison pour qu'ils puissent en quelque sorte fermer la porte de leur âme à tous les bruits du monde et s'enfermer en quelque sorte dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Une âme de raison, c'est ça. Les pères de l'Église ont une autre comparaison que j'aime beaucoup. Ils comparent une âme qui fait oraison à la mer. La mer ou l'océan, avec une tempête terrible. Donc en surface de l'océan, il y a des vagues énormes qui se creusent le vent souffle, les vagues se creusent, il y a beaucoup, beaucoup de bruit et beaucoup d'agitation, mais les pères disent, dès qu'on descend 20 mètres en dessous, sous la surface, c'est toujours calme. Eh bien, ces vagues représentent le monde. Le monde qui fait beaucoup de bruit, le monde qui cherche à tout écraser, mais si vous avez une vie intérieure, c'est comme quelqu'un qui descend à 20 mètres sous la surface de la mer, et même s'il y a un ouragan à l'extérieur, que les vagues sont épouvantables, 20 mètres sous la surface, c'est toujours calme. Et ils expliquent, c'est comme ça que doit être une âme intérieure. Une âme intérieure, une âme qui a une vie intérieure, est une âme qui est capable de garder le calme, de garder la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, hantée sur la croix, donc fondée sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, pour justement ne pas se laisser dominer et dissiper par les bruits du monde. Et c'est ce que représentent les nids, les oiseaux qui viennent se réfugier, se mettre au repos dans le nid, sur les branches de l'Église, sur les branches de l'arbre qui est l'Église, en s'abritant sur les dogmes de la foi catholique, représentent justement l'âme qui sait garder sa paix intérieure avec l'esprit de raison. Et évidemment, beaucoup d'autres choses que l'on peut expliquer justement à partir des pères de l'Église. Un autre point qui est aussi magnifique, les pères de l'Église expliquent que la graine de moutarde, pour pouvoir donner, une fois qu'elle est récoltée, l'épice de la moutarde va être broyée, écrasée. Et si la graine de moutarde n'est pas écrasée par le pressoir, elle ne peut pas donner une épice suffisamment forte. Et bien ce broiement, si vous voulez, cet écrasement de la graine de moutarde représente ce que notre Seigneur Jésus-Christ va faire par sa passion. Donc c'est le symbole de la passion de notre Seigneur. Si notre Seigneur Jésus-Christ a commencé sa passion au Jardin des Oliviers, ce n'est pas pour rien. Et que le Jardin des Oliviers s'appelait Gethsémanie. Gethsémanie, c'est le lieu du pressoir. Il y avait dans ce Jardin des Oliviers, près de la ville de Jérusalem, effectivement un pressoir. Et c'est là que les gens venaient apporter leurs olives pour que le pressoir puisse faire éclater les noyaux d'olive. Et du noyau d'olive va sortir l'huile d'olive. Et bien, c'est le symbole donc de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette huile qui sort du noyau représente la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, on retrouve la même idée, la grâce sanctifiante qui vient de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vient de l'écrasement de la graine, c'est-à-dire l'écrasement, le broiement des membres de notre Seigneur Jésus-Christ par toutes les peines épouvantables de la passion, eh bien notre Seigneur Jésus-Christ va être écrasé comme le noyau d'olive va être écrasé pendant la passion, après la récolte pour donner son huile. Notre Seigneur va être écrasé de même pendant la passion pour donner l'huile de la grâce sanctifiante. Et un deuxième symbole qu'on retrouve aussi chez les pères de l'Église, qui explique que cette graine qui va donner un arbre pour protéger justement les âmes, cette mère de famille qui cache du levain dans la pâte dans la farine pour faire lever la pâte, représente le mystère de l'incarnation. C'est comme ça qu'expliquent les pères, c'est le symbole du mystère de l'incarnation, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ qui vient s'incarner dans le sein très pur de notre Sainte Vierge Marie, par cette incarnation, va provoquer en quelque sorte l'éclatement de l'Église. Notre Seigneur Jésus-Christ va grandir dans le sein de notre Sainte Vierge Marie, comme, si vous voulez, aussi le levain qui est caché dans la farine pour faire lever toute la pâte. Et cette pâte qui lève, c'est évidemment le symbole de l'apostolat de l'Église. Donc les pères de l'Église expliquent donc que la mère de famille qui cache le levain dans la pâte, dans trois mesures de farine, représente justement la prédication de l'Église catholique. L'Église catholique qui va de par le monde pour baptiser, pour prêcher d'abord et baptiser ceux qui ont trouvé la foi. Rappelez-vous la phrase de notre Seigneur à ses apôtres, « Allez, prêchez, baptisez. Celui qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne sera pas baptisé, qui ne croira pas, celui qui sera baptisé croira, sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. » Et donc, il y a une troisième explication qu'on peut donner, toujours à partir des pères. Donc cette graine de sénévé qui se développe, ce levain qui est placé dans la pâte, représente pas simplement la levée, si vous voulez, de l'Église catholique, de la grâce sanctifiante, mais représente aussi ce qui doit se passer dans une âme lorsqu'elle rencontre notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'une âme rencontre notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce sanctifiante en nous doit faire immédiatement développer cette âme. Imaginez une mère de famille, une maman qui place le levain dans la pâte et la pâte ne lève pas, on ne peut pas faire de pain. De même, notre Seigneur Jésus-Christ, s'incarne notre Sainte Vierge Marie, donc ce levain qui est placé dans la pâte représente notre Seigneur Jésus-Christ qui entre en quelque sorte dans le sein très pur de notre Sainte Vierge Marie le 25 mars, le jour de l'Annonciation. Et à ce moment-là, la pâte doit lever. C'est la même chose pour nous. Notre Seigneur Jésus-Christ, par la confession, par la Sainte Communion, entre dans notre âme, s'incarne d'une certaine façon dans notre âme, mais il exige évidemment que cette âme se développe. Imaginez une âme qui reçoit notre Seigneur Jésus-Christ et qui ne se développe pas, ça ressemble, si vous voulez, à une graine de moutarde qui est plantée dans le sol, dans le jardin de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne pousse pas, qui ne devient pas un arbre. Ou au contraire, ça peut également représenter la maman qui met, ou la femme qui met une mesure de levain dans la pâte, et la pâte ne lève pas. Le bon Dieu exige justement que cette pâte lève. Et malheur à ceux qui n'ont pas justement un cœur qui s'enfle dans l'amour du bon Dieu. Souvent les gens disent, monsieur l'abbé, moi j'ai la foi de mon baptême, j'ai la foi du charbonnier, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas du tout, parce que le bon Dieu exige, surtout dans les temps extrêmement difficiles dans lesquels nous vivons, le bon Dieu exige justement que cette pâte lève. Le bon Dieu exige que la graine de sénévé qui a été plantée dans le jardin lève pour devenir un arbre, pour que les âmes puissent venir s'y réfugier. Si l'arbre de notre foi en nous commence à grandir et à s'épanouir, à ce moment-là, on va pouvoir recevoir d'autres âmes qui vont venir chercher refuge et repos dans cet arbre qui est qui représente les conséquences de la grâce sanctifiante. Donc malheur, justement, à ceux qui se contentent de garder cette grâce sanctifiante, qui ne cherchent pas à la faire développer, qui ne cherchent pas à provoquer un épanouissement de la foi. Et c'est pas pour rien que dans les textes du bréviaire qui explique justement tous ces magnifiques passages des évangiles, la Sainte Église a choisi pour aider le prêtre à comprendre l'esprit de l'Église, la Sainte Église a choisi le texte du livre de Daniel. Vous connaissez ce texte, c'est avec le roi, le fils de Nabucodonosor, le roi Balthazar. Donc le roi Balthazar était en train de festoyer avec les grands de son royaume, avec tous les calices précieux qui avaient été volés par son père au temple de Jérusalem, au moment de l'envahissement de la ville de Jérusalem. Je crois que c'était les Assyriens. Et qu'ils avaient volé, Nabucodonosor avait volé tous les vases sacrés du temple, et Balthazar profanait ces vases par une orgie, si vous voulez, avec tous les grands de son royaume. Et à ce moment-là, dit l'Écriture sainte, une main mystérieuse a commencé à tracer devant le regard du roi, sur la paroi, des signes mystérieux, illisibles, incompréhensibles, parce qu'il est écrit dans une langue que les Assyriens ne parlaient pas. Alors le roi Balthazar a appelé tous ses devins pour demander interprétation, et aucun de ses devins n'a su interpréter. Alors le roi est allé chercher Daniel, qui était un hébreu qui était dans la cité et qui avait justement ses dons d'interprétation. Il lui a demandé l'interprétation en lui promettant de le couvrir de gloire s'il interprétait correctement les textes, les trois mots qui avaient été écrits sur la paroi. Et Daniel a dit, votre argent et votre or, vous pouvez le garder, mais je vais vous expliquer parce que ces mots sont compréhensibles par moi parce que c'est ma langue, ces trois mots hébreux. Manet et Selfares. Il a expliqué dans l'explication. Il a dit, Manet, ça veut dire tu as été compté. Tesel, tu as été soupesé. Phares, tu seras divisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bon Dieu vient pour juger nos âmes. Il va commencer par voir ce qu'il y a dans l'âme, compter l'âme, compter les mérites de cette âme. Ensuite, soupeser les mérites de cette âme. De cette âme dans la balance de sa charité, la balance de sa justice et de sa miséricorde. Et enfin, si l'âme est trouvée trop légère, à ce moment-là, elle sera divisée. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Balthazar, puisque le soir même, les Mèdes ont envahi la cité et Balthazar a été tué. Eh bien, chers frères, comment notre Seigneur Jésus-Christ nous demande impérativement, surtout aujourd'hui, d'avoir cet esprit missionnaire. D'avoir cet esprit missionnaire pour que la foi que le bon Dieu a plantée dans notre âme le jour de notre baptême ne reste pas stérile. Ne reste pas une petite plantule toute petite dans le jardin, mais devienne un arbre, justement un arbre par lequel notre Seigneur Jésus-Christ puisse convertir le monde. Regardez l'apostolat extraordinaire qu'ont fait certains saints. On dit par exemple que Saint François Xavier a baptisé de sa propre main plus d'un million d'âmes. Eh bien, imaginez, mes bien chers frères, que chacun d'entre nous, après la messe du dimanche, après la confession de la communion de la messe du dimanche, nous ayons cet esprit apostolique. Et nous soyons capables, dans le monde moderne dans lequel nous sommes obligés de vivre, que nous soyons capables d'être le feu sacré de la charité de notre Seigneur. À ce moment, nous comprendrions que ce feu sacré ne demande qu'une seule chose, c'est de se répandre. Il suffit d'une petite étincelle dans une forêt pour faire flamber toute la forêt. Eh bien, il suffit aussi d'une âme chargée de notre Seigneur Jésus-Christ, envahie par la chaleur de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que cette âme puisse transférer le feu de la charité de notre Seigneur Jésus-Christ à tous ceux qui sont autour de lui. Donc il faut demander, mes bien chers frères, cet esprit. Il faut demander cet esprit missionnaire. Malheur à l'église qui perd son esprit missionnaire. Malheur aux fidèles qui perdent l'esprit missionnaire. Ce prosélytisme est absolument nécessaire, surtout aujourd'hui, parce qu'on vit dans un monde qui a complètement perdu notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, demandons cette grâce par la façon de vivre, par la façon de nous comporter, que ce soit en famille, socialement, dans les milieux professionnels, dans les milieux de la vie de tous les jours. Demandons cette grâce de savoir justement faire fructifier en nous notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous soyons vraiment un grain de s'élever qui lève, comme une mesure de levain dans la pâte, faire lever cette pâte, lever cet arbre, pour que justement notre Seigneur Jésus-Christ puisse être glorifié. D'où l'importance, mes bien chers frères, encore une fois, l'importance de l'exercice de Saint-Ignace. Parce que précisément l'exercice de Saint-Ignace donne, avec la grâce du bon Dieu, aux âmes qui les suivent correctement, ce feu sacré dont nous avons absolument besoin. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge, mes bien chers frères. Nous ne sommes plus dans les périodes chrétiennes avec une foi chrétienne très forte. Au Moyen-Âge, il était certainement possible de sauver son âme avec un petit minimum. Un petit minimum était sans doute à l'époque, peut-être simplement la messe le dimanche, le chapelet tous les jours, prière du matin, prière du soir. Au Moyen-Âge, c'était peut-être suffisant pour sauver son âme. Pourquoi ? Parce que l'atmosphère générale dans laquelle les gens vivaient était une atmosphère chrétienne. La foi était partout, les monastères étaient partout, les prêtres étaient partout, les moines étaient partout. Donc il était relativement facile de sauver son âme avec un petit minimum. Nous ne vivons plus dans ce temps-là. Nous vivons dans une fin de civilisation qui n'est même plus digne du nom de civilisation. Nous vivons dans une poubelle. Nous sommes obligés de vivre dans une poubelle, malheureusement. Et justement, à cause de cela, le bon Dieu exige de chacun de nous un héroïsme qui n'existe, demandait peut-être pas ou pas de la même façon aux chrétiens du Moyen-Âge. Mais comme le bon Dieu le sait, que nous vivons dans des conditions beaucoup plus difficiles pour conserver la foi, le bon Dieu, dans sa justice, nous donne beaucoup plus de grâce, c'est absolument évident. Il ne pouvait pas demander à des gens d'aujourd'hui les mêmes choses qu'il demandait aux gens du Moyen-Âge, parce que justement, nous sommes devenus des petites gens, il ne faut pas oublier ça. On a toujours tendance à considérer que les gens du Moyen-Âge étaient déjà à moitié demeurés, mais c'est le contraire, c'est nous qui sommes devenus des demeurés. Au Moyen-Âge, au contraire, les gens ont une force de la foi extraordinaire, un degré de culture religieuse extraordinaire que nous n'avons pas. Alors le bon Dieu nous donne les grâces, mais c'est à nous d'utiliser ces grâces. C'est à nous de planter la graine de sénévé dans la terre, c'est à nous de mélanger le levain aux mesures de farine pour que justement la grâce puisse se lever et donner du fruit. Alors demandons, eh bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à mettre en pratique toutes ces choses, que nous soyons comme la lumière du monde, comme le sel de la terre, quand nous sortons justement de la messe. Il faut que la messe dominicale, parce que la plupart d'entre vous, vous pouvez venir à la messe souvent que pendant le seul dimanche, il faut que la messe dominicale soit comme un feu sacré qui vous aide à tenir pendant toute la route. Prenons une comparaison très moderne, c'est comme, si vous voulez, la station-service pour remplir le réservoir de la voiture de carburant. Il n'y a pas beaucoup de stations-service, on en trouve une tous les dimanches, on s'arrête, on fait le plein, on vérifie tous les niveaux, parce qu'on sait qu'on va devoir rouler avec ce réservoir avec le carburant du réservoir pendant toute la semaine. Malheur à celui qui vient à la messe le dimanche et qui ne profite pas pour faire le plein spirituel au niveau des grâces du bon Dieu. Donc demandons à ta Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, de nous aider à comprendre toutes ces choses pour qu'elle puisse justement être le pont entre elle et notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le rôle de notre Sainte Vierge Marie. Elle est l'aqueduc, dit Saint Bernard. L'aqueduc, c'est celui qui fait le passage, qui permet le passage des grâces du bon Dieu depuis le ciel à la terre. Donc demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous donner toutes ces grâces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.